Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un conciliateur du monde vivant nous embarque à la découverte d'écosystèmes où humains et non-humains s'allient dans un effort commun. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Moi, c'est Christophe Senet. Je suis gérant et fondateur de l'entreprise Rue Natura Terra. Et je suis basé sur le secteur des Mauges, donc dans le Maine-et-Loire. Je viens d'un petit village, du coup, en Picardie, où j'ai grandi dans les champs et dans la nature, on va dire ça comme ça. Mon amour des plantes, du jardin, vient de mes grands-parents. Et ma grand-mère faisait tout ce qui était partie florale et mon grand-père tout ce qui était partie potager. Donc j'ai vraiment découvert très jeune le plaisir de jouer avec la terre et les fleurs et les petits insectes. Et cette fougue est venue en grandissant, en fait. Cette envie de restaurer la nature est arrivée assez jeune et en voyant aussi les dégâts qui avançait en fait, qui se développait et l'envie de proposer des alternatives. C'est vraiment ça qui m'a fait me lancer et d'ouvrir mon entreprise il y a 11 ans. Déjà, quand j'ai pris une location, en fait, il y avait un vieux terrain qui avait été abandonné pendant 15 ans. Et de voir, par exemple, les vieux clapiers à lapins effondrer, de voir la vie en fait en dessous, de lever des vieilles tôles et de me dire que la nature avait repris ses droits, et de voir tout cet humus, en fait, qui avait réussi à coloniser les structures, on va dire, humaines. C'est cette observation-là, en fait, qui m'a poussé à réflexion. Et du coup, beaucoup de lectures, beaucoup d'essais, beaucoup d'expérimentations, et du coup, on en arrive développer des protocoles, si on peut le dire comme ça, des idées pour revégétaliser, pour replanter, pour faire venir la vie en fait où l'homme a fait de gros dégâts. Et c'est ça en fait qui m'a fait me lancer.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en trois mots, un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
Alors, pour ce qui est du vivant, pour moi, le goût, ce sera celle de la tomate qui a poussé dans une petite serre maison, et quand elle est encore chaude, en fait. Celle qu'on va manger, qui va avoir ce goût doux, en fait, très doux et très chaud. Ça, c'est vraiment pour moi un plaisir. C'est l'odeur de la terre, de la poussière, en fait, qui arrive juste avant un orage. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça, le vivant. C'est ces moments-là, en fait. Quand on est dehors, quand on est sur un chantier, on entend même par moments gronder. Et ça, c'est ce bruit, en fait. La pluie qui arrive au loin, qu'on ne voit pas encore, on entend. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment quelque chose de vivant, d'intouchable. Pour la texture, c'est celle des hautes herbes, celle des prairies, qui est douce et piquante en même temps. Celle où on peut s'allonger dedans, on peut même observer en même temps la vie qui se promène dans ces hautes herbes, on va dire sauvage. n'a pas été tondu, qui n'a pas été récolté. Alors la couleur, ça c'est une bonne question. La couleur, moi je travaille sur des sites du coup très appauvris. Donc la couleur, moi c'est beaucoup la couleur de la roche. Et là la couleur, c'est au contraire, c'est la couleur de la dégradation de ce que l'homme a fait. C'est celle qui m'impacte le plus, c'est cette couleur de roche, du coup de ce pays d'où je suis arrivé, un mélange de terre ferreuse, de pierre ferrugineuse, très très rouillée, très chargée aussi en argile. Hein. Et c'est marron, orange, rouge, hein. C'est assez joli mais triste à la fois, parce qu'il manque le vert dessus. Et ouais, c'est ça. Moi, c'est ça la couleur dominante de mon environnement.
Dis-nous, comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Ça va être en amenant tous les éléments que j'observe tous les jours. En fait, je m'inspire des forêts, le sol riche, la végétation très présente, très luxuriante, cette vie invisible qui est cachée dans le sol, dans des projets. Quand j'arrive, c'est souvent des terrains qui ont été très artificialisés. Je recommence par les éléments pionniers. Je vais utiliser, travailler avec toute une palette. Déjà, tout ce qui est lichen, je vais retravailler avec les mousses, je vais retravailler avec les graminées, je vais retravailler vraiment le sol en premier. Et après, je vais laisser déjà la vie revenir en fait sur ces parcelles-là. Après, c'est que de l'observation, voir où j'ai pas assez compensé, où j'ai pas assez redonné en fait. Et du coup, c'est à moi d'ajuster, toujours en étant le plus minimum possible, le plus minimaliste possible. L'amélioration, se fait par l'observation. Quand je vois la dégradation du bois, par exemple, je vais voir tout ce qui est cloporte, je vais voir tout ça redémarrer, en fait, tous ces petits éléments, tous ces micro-organismes, les champignons commencent à réapparaître. Faut s'imaginer, en fait, que par moment, on me demande de venir sur des sols totalement lunaires. Il n'y a même pas un reptile qui est caché sous la roche. C'est tellement anéanti, en fait. C'est quand je vais commencer à voir ces petites formes de vie revenir. On va voir en premier les champignons, le végétal, c'est le premier qui revient en fait. Les mousses, c'est les premières. Et là, après, on commence à voir du coup les pollinisateurs aussi revenir sur dès qu'il y a une fleur. Et là, on sait que ça redémarre. Et quand il commence à y avoir des arbustes qui sont capables d'arriver en spontané, quand je vois les sureaux réarriver, là, je me dis c'est bon, c'est parti, c'est relancé. Derrière, on a les oiseaux qui reviennent. Et ça y est, la machine, en fait, est relancée. Elle est relancée et il y a plus de 20 mois. En fait, là, c'est bon. J'ai redonné à la nature tout ce qu'il lui fallait. Et après, elle va se cicatriser d'elle-même.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
On a détruit, on a fortement détruit ces 60 années, c'est un siècle même. Et là, on a la technologie, on a le savoir, on a les compétences, on a une palette énorme, on a la conscience. Et c'est à nous, du coup, d'être les médecins, de créer le pansement, mais en étant le plus possible proche de la nature, sans faire d'intrants chimiques. La nature, elle s'est développée sur des millénaires, des millions d'années, des milliards d'années. Elle a créé, en fait, tout. Et c'est à nous de la récupérer, de la réinjecter sur ces sites, sur tout ce qu'on a abîmé. Hein. Et de pouvoir faire une harmonie, une symbiose. Je pense que c'est largement possible à notre époque.
On va passer à la question d'actualité. Le mois dernier a été publié le contrat d'objectifs et de performance de l'Office français de la biodiversité. Tout d'abord, un petit rappel de ce qu'est l'OFB. Il s'agit d'un organisme public rassemblant 3000 agents, dont plus de 2000 agents de terrain, plusieurs centres d'analyse scientifique, des directions régionales en France et en Outre-mer. Les agents ont pour vocation d'être acteurs de référence pour la protection des espèces et des milieux aquatiques, terrestres et marins, d'être un acteur présent à toutes les échelles et d'accompagner les changements durables pour la transition écologique. L'OFB actuel est le résultat d'une fusion, il y a quelques années, entre Office de la chasse et Agence de la biodiversité. Cet organisme est autant un financeur d'actions positives pour le vivant qu'un acteur lui-même, un centre de ressources et un organisme de surveillance et de contrôle de l'état du vivant sur l'ensemble de notre territoire. Le contrat de l'OFB part du constat que l'effondrement de la biodiversité constitue un défi majeur pour notre société, touchant toutes ses composantes, géographiques, démographiques ou sociales, mais que ces composantes sont également toutes sources de solutions. D'après ce document et l'IPBES, les nombreux obstacles auxquels se heurtent les actions favorables à la biodiversité trouvent des origines diverses. Préférence pour le court terme, conflit de priorité, caractère diffus des services écosystémiques, les différentes crises que notre pays a récemment traversées illustrent bien ces conflits de priorité et cette difficulté à placer la biodiversité au bon niveau de nos choix de société. L'IPBES a bien documenté ces nombreux freins et plaide pour des changements transformateurs qui permettraient de les surmonter, changements juridiques, technico-économiques ou institutionnels, mais aussi changements dans nos valeurs ou systèmes de représentation. C'est avec ces objectifs et sur la base d'autres documents d'orientation existants comme la Stratégie nationale de la biodiversité, le plan eau, le plan national santé-environnement et le plan d'adaptation au changement climatique que ce contrat d'objectifs et de performance a été établi. Notons que ce contrat a été approuvé et signé par les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture. Le contrat contient 18 objectifs opérationnels, dont chacun d'entre eux est assorti d'un indicateur et décomposé en sous-objectifs et en ambitions. Afin d'illustrer ce contrat, je vous en citerai deux qui, à mon sens, s'attellent à des milieux influents sur notre quotidien. Vous pouvez retrouver une plus fine représentation de cette actualité dans le prochain épisode Feuille de Chou, en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9. Comme premier objectif, je vous propose de découvrir celui-ci, accompagner les pratiques favorables au sein des usages qui dépendent de la biodiversité. L'agriculture, la sylviculture, la pêche, les usages marins, la chasse, la cueillette, les sports de loisirs en pleine nature sont chacun à leur échelle susceptibles d'occasionner des atteintes significatives à la biodiversité. Or, ces activités sont aussi dépendantes du bon état écologique des milieux dans lesquels elles se développent. Leur résilience au changement climatique en dépend également. Par son action, l'OFB vise à faciliter et renforcer la mobilisation des acteurs. Concrètement, l'organisme va soutenir des initiatives exemplaires et inspirantes en milieu agricole, participer à la restauration de l'équilibre forêt-gibier, ou encore soutenir les actions des fédérations et associations de pêche pour la protection et restauration des milieux aquatiques, accompagner les acteurs de sport de nature dans des engagements concrets pour faire évoluer les comportements des professionnels, bénévoles et pratiquants de sport de nature, ou encore, dans nos mers et océans, tester des dispositifs de réduction de capture dans le cadre du LIFE, espèces marines mobiles. Et comme deuxième objectif que l'OFB porte et qui se place à la portée de toutes et tous, construire et valoriser des récits prospectifs, porteurs d'action et de changement. Il s'agit là de lancer des démarches de construction de récits pour aller vers d'autres représentations de l'avenir intégrant le vivre avec la biodiversité et garantissant l'habitabilité des territoires. Le but de cette nouvelle action de l'OFB serait de ne pas imposer des récits, mais d'impulser et accompagner des démarches collectives de co-construction pour faire appel tant à la science et à la connaissance qu'aux imaginaires, aux sensibles, aux expériences vécues, notamment via des médiations artistiques et culturelles, autour de concepts tels que ceux de belle vie, de santé globale, de résilience, sobriété, solidarité et bien d'autres. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Pour moi, l'OFB, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que ça reste très administratif. Pour certains sites, c'est beaucoup des privés, en fait, qui me contactent. Je lance des propositions. Mon client est très intéressé. Par exemple, je propose de remplacer le grillage métallique par une haie d'épinettes. Cette haie sert pour la nidification. Cette haie ne va pas être en monoculture, mais elle va être très diversifiée. On va essayer de mettre le maximum d'essence, des mellifères, tout en fait. Elle va faire des fruits, elle va faire des baies. À ses bases, on met des noues pour laisser infiltrer l'eau, pour que dès qu'il y ait une pluie, les racines puissent absorber cette eau, donc en désintermédiant le sol, tout ça. On peut augmenter, on peut rajouter des roches, on peut créer des hibernaculats, on peut créer en fait une mini forêt dans des zones qui ont été entièrement artificialisées. Si on appelle l'OFB, tout ça, ils sont intéressés. On peut encore faire plus sur ce genre de site. On peut créer une mare, on peut créer la déconnexion des eaux pluviales, tout ça. Mais si on appelle pour avoir une aide, ils ne sont pas disponibles. Si on appelle pour savoir s'il y a une subvention, il n'y en a plus. Si on explique que c'est pour développer une trame verte et une trame bleue, ils sont super intéressés. Mais il y a toujours le problème, pour faire plus, les gens ont besoin d'aide, ont besoin de subventions. Et au final, personne n'est là à ce moment-là. Par contre, pour donner des leçons, oui, il y a quelqu'un. Pour expliquer comment faut faire, oui, il y a quelqu'un. Et en fait, il faut rester dans une certaine case. Pas moins, pas plus. Si vous proposez plus, c'est du débord. Et pour moi, l'OFB, c'est bien parce que ça met un garde-fou, mais il faudrait qu'il y ait le plus, l'autorisation d'avoir plus et de faire plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir au fur et à mesure des années. Et que tout doit rentrer dans une case. Et là est le dommage.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Moi, ma référence touche vraiment la nature. Hein, quelque chose qui m'a fait palpiter quand j'étais très jeune, c'est un film qui s'appelle L'Ours. Et c'est vraiment le film qui montre le problème homme et nature. Et ce film-là, c'est à mes yeux le plus beau regard qu'on peut avoir sur cette déconnexion, sur peut-être aussi à un moment sur cette reconnaissance que l'homme peut avoir en fait envers la nature. Néandertal, qui est au cœur de ma réflexion, et pour moi l'homme, l'homo idée, qui a le plus été en fusion, en harmonie avec la nature.
Does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Tu as pêché où, baobab à cajou? Voici que cet épisode, aux côtés d'un baroudeur de la technologie du vivant, prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une autre nouvelle fraîchement
cueillie. Mais les œufs tremblent. Tremble être noyée.